Bénédicte de Dinchin, bonjour.
Oui, bonjour. Ce matin, nous allons ensemble voir effectivement à quoi ça sert d'avoir une bonne estime de soi et puis comment ça peut être très précieux pour construire son couple, pour réussir sa vie conjugale, puisque le thème de notre émission mensuelle, hein, c'est Vive mon couple. Et donc chaque mois, nous allons nous retrouver pour voir ensemble eh ben, comment fortifier son couple, qu'est-ce qui dépend de nous pour que les choses se passent bien ou se passent mieux. Et puis, si vous ne vivez pas en couple et que vous nous écoutez, peut-être que ça peut vous donner des outils, une aide quand vous parlez à vos amis. Mais sachez aussi que tout ce que nous disons dans cette émission est transposable à vos relations au sens plus large, que ce soit dans le milieu associatif ou le milieu professionnel. Et c'est tout à fait le cas de l'estime de soi. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Nous allons voir ça. Nous allons voir que je parle hein, beaucoup à l'école d'un prêtre et psychologue qui s'appelle Jean Monbourquette. Et puis, quelles sont les conséquences d'une bonne estime de soi, c'est-à-dire mon affirmation de soi, et comment c'est bien utile dans la vie conjugale. L'estime de soi, c'est un thème qui est à la mode depuis au moins 20 ans. Il y a beaucoup de livres qui fleurissent chaque année sur les rayons des librairies sur ce thème, et il a tellement été accommodé à toutes les sauces qu'il en est parfois devenu un peu indigeste ou galvaudé. Et puis on peut se demander, est-ce que c'est pas égocentrique ou orgueilleux de vouloir avoir une bonne estime de soi? Est-ce que finalement ce serait pas assez vertueux de ne pas s'aimer, ce qui serait un gage d'humilité? Et puis, quelle est l'articulation entre ce développement personnel très à la mode en psychologie et puis l'humilité que peut-être nous cherchons à avoir à la suite du Christ? Et pourtant, vous avez sûrement lu comme moi qu'il est écrit dans les évangiles, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est donc un vrai sujet de s'aimer soi-même à condition que cela ne soit pas un objectif en soi. Ce n'est pas un but de s'aimer soi-même, mais c'est un moyen parce que moi-même, je vais être capable de me reconnaître comme une personne aimable ou de me reconnaître des capacités que je vais pouvoir accueillir cela de la part de l'autre et que je vais pouvoir m'affirmer davantage. C'est donc ce que nous allons ce matin développer ensemble à l'école de Jean Monbourquette, à l'école duquel je me suis formée depuis quelques années. Alors déjà, enlevons les fausses idées sur l'estime de soi. L'estime de soi, ce n'est donc pas de l'orgueil, c'est pas du tout se croire supérieur aux autres. Les gens qui ont beaucoup besoin de se vanter, de se comparer aux autres pour se trouver supérieur, ce sont peut-être des personnes qui ont besoin d'être rassurées et qui ont une fausse estime d'elles, un peu comme un château de cartes. Ça a l'air, c'est très beau, mais c'est très fragile. Et quand on a besoin sans arrêt de se comparer ou de se croire supérieur, voire d'écraser les autres, c'est peut-être qu'au fond, on doute terriblement de ses capacités. L'estime de soi, c'est pas, puisque j'en parlais, justement que une histoire de capacité, mais aussi se reconnaître précieux pour sa personne. Vous connaissez peut-être cette phrase, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. L'estime de soi, donc nous le verrons, c'est pas juste centré sur nos actions, mais aussi sur qui nous sommes. Vouloir fortifier son estime de soi, c'est pas quelque chose de réservé aux faibles, aux personnes qui ont un peu tout raté. C'est vraiment ce qui nous est proposé à chacun pour finalement pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Et enfin, peut-être encore une fausse croyance, l'estime de soi, avoir une bonne estime de soi, ce n'est pas un frein, quelque chose qui m'empêcherait de progresser. Vous savez, on entend souvent cette phrase, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et parfois, cela peut empêcher de s'aimer ou d'être fier d'une réussite, comme s'il y avait un risque dans cette fierté de ne plus jamais faire de progrès après ou de ne plus vouloir faire de grandes choses. Au contraire, moi, je crois que être fier d'une réussite, c'est comme une espèce de moteur qui va nous aider à nous appuyer sur nos compétences pour entreprendre des choses peut-être encore plus difficiles et plus audacieuses. Alors, qu'est-ce que c'est finalement que l'estime de soi? C'est pas très facile de s'y retrouver, surtout qu'on entend des mots différents, estime de soi, amour de soi, confiance en soi, affirmation de soi. Est-ce qu'ils veulent dire tous la même chose? Alors, je le disais, hein, beaucoup d'auteurs tout à fait compétents se sont penchés sur la question, ont écrit sur la question, et celui que j'ai choisi là pour cette intervention sur Radio Maria, ce sera Jean Monbourquette. Et pour Jean Monbourquette, donc dont je vais m'inspirer vraiment pendant cette heure, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Avoir une bonne estime de soi pour son être, c'est répondre à la question: suis-je digne d'amour? Suis-je aimable pour qui je suis? Et ça, c'est l'estime de soi pour sa personne. C'est comment je réponds à cette question: suis-je aimable? Et l'estime de soi pour ses actions, pour son agir, c'est comment je réponds à la question: ai-je confiance en mes ressources? Suis-je capable? L'estime de soi, c'est donc le reflet de notre perception de nous-mêmes sur notre être et sur notre agir. C'est l'ensemble des jugements que nous portons sans arrêt sur nous-mêmes, plus ou moins consciemment. Notre estime de nous s'est construite avec tous les événements de notre vie qui l'ont favorisée ou bien érodée. Mais devenus adultes, nous avons le pouvoir de la restaurer, de la faire grandir. Et ça, c'est une excellente nouvelle que je voulais vous partager. Parce que notre estime de nous, c'est un mouvement intérieur dont on peut prendre conscience pour le modifier. Et c'est ce que font d'ailleurs beaucoup de personnes en accompagnement individuel avec les praticiens formés à la pédagogie Monbourquette ou qui vont suivre une formation d'un ou plusieurs jours que nous appelons nous des ateliers parce que c'est comme si on malaxait la terre, hein, vraiment des ateliers animés avec la pédagogie de Jean Monbourquette. Et si ça vous intéresse, vous pourrez tous les retrouver sur un site bien complet qui s'appelle estimame.com, estimame.com. Voilà, alors, comment est-ce que je peux modifier mon estime de moi? Eh bien, prenons un exemple tout de suite qui vous concerne peut-être. Là, en entendant cette émission ou sa rediffusion, vous avez peut-être un dialogue intérieur. Vous vous sentez peut-être tiraillé. Vous êtes en train d'écouter, d'avoir envie de prendre des notes, imaginons. Et puis, peut-être qu'une petite voix inférieure vous fustige en disant: ben oui, si je m'étais mieux organisée, j'aurais pu écouter tranquillement cette émission au lieu de faire autre chose en même temps. Alors, si c'est le cas, posez-vous la question: est-ce que ce dialogue intérieur que j'ai est bon pour mon estime de moi? Et peut-être que votre dialogue intérieur est tout à fait bon pour votre estime de vous. Vous êtes peut-être avec une tasse de café en train de, tout en écoutant cette émission, de vous dire: ah ben, je suis content parce que j'ai réussi à m'organiser ce matin et à prendre le temps d'être tranquille pour faire ce que j'avais à faire. Ben voilà, ça c'est un dialogue intérieur qui est tout à fait favorable à votre estime de vous. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes en train de vous faire des reproches, de vous comparer à telle autre personne qui, elle, serait plus organisée, aurait mieux anticipé ou que sais-je, eh bien, à vous de modifier ce dialogue intérieur. Et pourquoi? Mais parce que c'est vraiment important de restaurer votre estime de vous. Une personne qui a une bonne estime d'elle-même, elle est consciente de sa dignité personnelle. Elle s'apprécie dans toutes les dimensions de son être. Et en conséquence, elle saura se faire respecter. Dans l'action, elle prendra plus de risques intelligents, elle persévérera dans la poursuite de ses projets et les mènera à terme. Ce sont donc des qualités précieuses pour une vie de couple et de famille, et pour toutes nos actions professionnelles, associatives, etc. Donc vous réalisez peut-être que finalement, favoriser votre estime de vous, l'augmenter, ça passe par des choses toutes simples, comme cet exemple de dialogue intérieur. Alors, je vais vous donner un exemple pour l'illustrer. Je pense à Magali, que j'ai rencontrée au cours d'un atelier. Magali était bénévole dans une association et particulièrement appréciée. Le président de cette grosse association voulait lui confier une responsabilité importante, mais Magali a refusé. Elle en avait pourtant très envie, mais peur d'un échec. Alors, une meilleure confiance en elle, acquise en atelier d'estime de soi, lui a permis d'oser dire oui. Et pour ça, elle s'est appuyée sur ses qualités qu'elle avait du mal à identifier. Elle s'est rappelée qu'elle avait déjà réalisé des choses parfois assez similaires, donc elle avait des compétences. Et elle a été capable de dire au président de l'association qu'elle avait besoin de pouvoir compter pendant quelques mois sur l'appui de l'ancien responsable. Magali a fait preuve d'affirmation d'elle-même en osant faire une demande d'aide précise. Vous voyez bien à travers cet exemple que une bonne estime d'elle, dans le cas de Magali, c'est-à-dire se souvenir qu'elle avait des qualités et des compétences, ne l'a pas rendue orgueilleuse, ne lui a pas donné de sentiment de supériorité, mais ça lui a permis de prendre sa place et d'oser dire qu'elle avait besoin d'aide. C'est juste un regard ajusté sur soi-même. Donc elle a su dire qu'elle avait besoin d'aide, étant novice dans certaines tâches qu'elle aurait à accomplir et en faisant une demande bien claire. Eh bien ça, c'est un exemple d'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est comment se reflète dans ma relation avec les autres mon estime de moi. Comment je vais oser faire une demande, comment je vais oser dire non, comment je fais un compliment, comment j'accueille un compliment. Et puis pour Jean Monbourquette, la conséquence essentielle d'une bonne estime de soi, c'est comment je vais accéder à ma mission. Pour lui, l'estime de soi n'est pas un objectif en tant que tel, mais un moyen d'accéder à ma mission, c'est-à-dire, on pourrait presque dire, l'élan de mon âme, la place où je dois être, comment je vais être co-créateur de l'univers ou contribuer à ce que le monde soit meilleur. Et pour écouter l'élan de mon âme, c'est encore une autre particularité de notre approche pédagogique. On ne va pas juste travailler l'estime de soi en développant de manière consciente, hein, avec toutes les ressources de notre psychologie, tel talent, qualité, modifier la manière de me voir, de me parler, que sais-je. Mais on va aussi aller écouter, donner toute la place au pouvoir de notre âme, au pouvoir réunificateur, au pouvoir pacifiant. Au pouvoir apaisant, à l'intuition qui est dans notre âme et qui va être une ressource infiniment riche et inépuisable. Et c'est ce que Jean Monbourquette nomme l'estime du soi. Donc un travail psychologique et puis un travail spirituel. Comme si en fortifiant ma psychologie, mon ego, je m'ouvrais à tout ce que le Seigneur veut pour moi ou toutes les ressources de mon âme. Et parfois, ben, quand je manque d'estime de moi, je n'ose pas le faire. Je ne crois pas du tout à cette parole de la Bible, tu as du prix à mes yeux et je t'aime parce que je ne me crois pas aimable. Et alors, si je ne me crois pas aimable, eh ben, comment me croire aimée? Comment croire mon conjoint quand il me fait un compliment? Je risque de penser qu'il me manipule ou qu'il veut quelque chose ou qu'il ment. Comment accepter un reproche si je n'ai pas une bonne estime de moi? Si quelqu'un se croit déjà un peu nul, ben finalement, quand on lui dit que quelque chose ne va pas, c'est la fin du monde. Comment oser m'engager si je n'ai pas confiance en moi et dans mes capacités? Comment oser faire des choix pour ma vie conjugale? Si j'ai besoin beaucoup de l'appréciation des autres pour oser être moi-même. Donc vous voyez, vous réalisez peut-être à quel point fortifier notre estime de nous, bah c'est presque un service à rendre au monde. Et que la relation plus, comment dire, plus apaisée que je peux avoir avec nous-mêmes, elle va avec moi-même, elle va se refléter dans ma relation aux autres. Et que si je deviens mon ami, eh ben je vais davantage accepter de me laisser aimer et je vais davantage être capable de montrer aux autres l'amour que j'ai pour eux. Alors je vous propose maintenant, avec Sandra qui va nous mettre une petite pause musicale, de répondre à deux questions. Une question qui concerne votre estime de vous sur votre personne. Êtes-vous certain d'être aimable? Et une question qui concerne votre estime de vous pour votre agir. Êtes-vous certain d'avoir des capacités? Alors, ces deux questions. La première, sauriez-vous dire au moins cinq qualités que vous avez. Et peut-être 10 et peut-être davantage. Mais sauriez-vous dire 5 qualités que vous possédez et les noter pendant la pause musicale qui va suivre? Et la deuxième question, c'est pouvez-vous noter, vous remémorer au moins 3 actions dont vous êtes fier depuis les dernières 48 heures? Pour vous aider, souvenez-vous de deux choses. Il n'y a pas de trop petite raison de se féliciter et une qualité, on l'a rarement à 100%. À vous. Nous retrouvons avec vos réponses à ces deux questions. Quelles sont les qualités que je possède et de quoi est-ce que je peux être fière depuis les dernières 48 heures? Alors, c'était comment, chers amis, de répondre à ces questions? Peut-être que voilà, ça a été assez aisé pour vous et puis peut-être difficile. Alors, je vous invite à l'accueillir sans jugement. C'est un petit état des lieux, un petit état des lieux. En ce moment, vous avez plus ou moins de facilité à reconnaître vos qualités ou à reconnaître que vous avez fait des choses utiles, fructueuses ou que sais-je, dont vous pouvez être fier. Peut-être que vous avez du mal à vous trouver des qualités parce que vous avez un grand niveau d'exigence envers nous-mêmes, envers vous-même, ou peut-être que cette question est toute nouvelle. Alors, je vous invite vraiment à vous la reposer régulièrement. Et puis, si vous avez du mal à ressentir de la fierté pour des actions que vous avez pu faire, il se peut que vous ayez comme un espèce de, comment dire, d'empêchement de ressentir de la fierté parce que vous trouvez tout normal. Alors ça, c'est un petit saboteur intérieur, je cherchais le mot, qui vous fait penser que tout est normal. Alors si tout est normal, ben, quand est-ce que vous êtes fier? Posez-vous la question. Et c'est vraiment important d'être capable de ressentir cette fierté qui, encore une fois, n'est pas de l'orgueil. À travers ces deux questions, j'ai cherché à distinguer l'estime de soi pour sa personne et l'estime de soi pour son agir. Et c'est vraiment très important de ne pas les confondre. Trop de personnes se croient valables en raison seulement de leur travail ou de leur rendement. Et ces gens-là ne s'aiment pas réellement. Ils pensent pouvoir obtenir l'amour des autres par leur travail et non pour eux-mêmes. Et par contre, il arrive que beaucoup de personnes, tout en étant entourées d'affection pour elles-mêmes, n'aient pas été valorisées pour leur réalisation et pour leur succès. Ainsi, dans la poursuite de leurs projets, elles sont portées à se décourager facilement et à manquer de persévérance. Cela se manifeste, on le voit, chez les jeunes qui sont en décrochement scolaire, mais ça se manifeste aussi à chaque fois que nous nous décourageons, et bien peut-être justement aussi dans la construction de notre couple, de notre relation amoureuse. Et bien comment est-ce que je peux gagner en persévérance? Et bien c'est en m'appuyant sur mes succès, en me rappelant que j'ai des compétences. Voilà, alors ça c'est peut-être une découverte pour vous, une confirmation que vous avez besoin de fortifier votre estime de vous plus pour votre personne ou plus pour vos compétences. Alors, je voudrais que maintenant, avant les questions, on reprenne le temps de faire le lien avec la vie conjugale. Pourquoi les deux se tiennent? Parce que, souvenez-vous, le reflet dans ma relation avec les autres de mon estime de moi, c'est mon affirmation de moi. Donc, c'est comment, dans ma vie conjugale, je vais être capable, par exemple, d'accepter un reproche. Là encore, on peut se poser la question ensemble. Quand l'autre me fait un reproche, est-ce que j'ai tendance à être peinée? Est-ce que je cherche à comprendre son point de vue? Ou est-ce que tout de suite, je vais me trouver nulle? Augmenter son estime de soi permet de s'intéresser à un reproche sans en faire tout un drame. Quand mon conjoint critique mon action, je peux assumer mon erreur sans croire que c'est toute ma personne qui est nulle. Je peux aussi me dire « c'est son point de vue ». Et j'ai le droit d'en avoir un autre. Encore un exemple concret dans la vie conjugale, hein, quand mon conjoint boude, quand il est mutique, eh ben, qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que je crois automatiquement qu'il m'en veut? Est-ce que je me demande ce qu'il a? Ou est-ce que je sais très très bien ce qu'il a? Et je ne me pose même plus la question. Ben parce qu'une faible estime de soi, c'est souvent source d'interprétation. On est persuadé de savoir ce que les autres pensent. En général, on s'imagine qu'ils pensent plutôt du mal de nous. Et on est tellement persuadé de savoir qu'on oublie d'aller le vérifier. Et alors, on imagine et on dramatise. Alors, je vous invite à aller vérifier. Si vous réalisez que dans votre vie conjugale, familiale, vous avez tendance à interpréter et à avoir des réponses toutes faites, et bien vraiment, vous pouvez, et ça c'est une belle affirmation de soi, aller voir la personne en question et lui dire, ben voilà, est-ce que tu peux me dire ce qui t'arrive? Un autre petit test hein, sur votre estime de vous et votre vie conjugale, c'est comment pour vous quand votre conjoint vous fait un compliment? Est-ce que vous l'acceptez et vous le remerciez? Est-ce que vous avez du mal à le croire? Est-ce que vous croyez même qu'il se fiche de vous ou qu'il veut obtenir quelque chose de vous? Eh bien, en fait, si Jules vous trouve la plus belle ou la plus intelligente, et même si ce n'est pas objectivement complètement le cas, eh bien, c'est son avis, c'est son regard aimant. Et accueillir un compliment, c'est tout simplement accueillir le regard aimant de l'autre. Une autre question, toujours sur votre vie conjugale. Votre conjoint avec vous, qui est avec vous, qui vous a choisi, quand vous êtes en train de vous dire oui, effectivement, nous sommes ensemble, est-ce que vous pensez spontanément, eh bien, il a bien de la chance? Ou est-ce que vous vous dites plutôt, je ne le mérite pas? Ou alors, est-ce que vous vous dites carrément, ça ne va pas durer, c'est trop beau pour que ça dure? Eh bien, si vous croyez vraiment que vous ne méritez pas votre conjoint, vous allez peut-être finir par l'en persuader et saboter votre histoire. Alors reprenez la liste de vos qualités, celles que vous venez de faire. Et puis complétez-la avec les qualités qu'il apprécie chez vous, pour en être bien certain. Et oui, il aime votre fantaisie, ou alors il aime votre rigueur, ou alors elle aime votre sens de l'humour, ou elle aime votre capacité de prévoir ou d'anticiper. Et si vous ne trouvez pas, eh ben posez-lui la question. Tout simplement. Comme tu sais, chérie, de temps en temps, je me demande les qualités que tu me trouves ou ce qui fait que tu m'aimes et est-ce qu'on peut se le redire? Alors ça, c'était peut-être un peu auto-centré. C'est finalement comment vous pouvez fortifier votre estime de vous et qui est très bonne pour votre vie conjugale. Vous pourriez aussi, là, il nous reste quelques minutes avant les questions, vous demander comment je peux renforcer l'estime de soi de mon conjoint. Alors, je vous disais, ça peut paraître un peu contradictoire, hein, que notre estime de nous, on peut la renforcer en changeant notre dialogue intérieur, en changeant notre perception de nous-mêmes, en changeant notre regard sur nous-mêmes, mais on peut aussi favoriser l'estime de soi des personnes que nous côtoyons. On a évidemment quand même une action dessus. Alors, est-ce que vous pourriez cette semaine davantage pour renforcer l'estime de soi de votre chérie, par exemple, lui faire un compliment sur sa personne ou sur ses compétences et voir comment il l'accepte et peut-être le rassurer s'il a du mal à l'accepter. Est-ce que vous pourriez lui donner une marque d'affection gratuite, sans arrière-pensée? Est-ce que vous pourriez le ou la remercier d'une attention à votre égard? Est-ce que vous pourriez lui proposer de raconter un point brillant ou une réussite de sa journée, même petite, et vous y intéresser sincèrement? Ou encore lui envoyer un message avec un petit mot doux, sans demande, sans rien, juste pour lui dire que vous l'aimez. Ou enfin lui demander dans les jours qui viennent, que puis-je faire pour toi? Et l'encourager à oser vous faire une demande. là encore un reflet d'une faible estime de soi, c'est qu'on a du mal à faire des demandes, donc on va plutôt faire des allusions ou fonctionner en bouderie ou que sais-je. Il va faire une demande claire, ajustée, c'est vraiment un pilier pour aussi construire son couple. Alors imaginez-vous là, dans les jours qui viennent, qu'est-ce que vous allez choisir pour favoriser l'estime de lui ou l'estime d'elle de votre conjoint? Voilà, est-ce que ce sera lui faire un compliment, ou lui donner une marque d'affection, la remercier, lui dire ce qu'il vous apporte d'unique, lui envoyer un petit message, s'intéresser à quelque chose de sa journée? Alors pour terminer, encore quelques exemples hein, de comment une bonne estime de soi peut être bonne pour la vie conjugale, qui sont des exemples que moi j'ai pu noter dans les personnes que j'ai reçues dans mon cabinet de conseil conjugal. C'est Magali qui dit, ben moi avant je me trouvais nulle et je harcelais Paul pour qu'il me dise qu'il m'aime tout en ne le croyant pas. Il a failli me quitter pour ça. Et maintenant, avec plus de confiance en moi, je ne lui demande plus de me rassurer sans arrêt. Un autre témoignage, c'est celui d'Arthur. Arthur dit, quand ma belle famille nous imposait des dates de vacances, je n'osais pas dire non et je subissais tout en leur en voulant. Avec Justine, nous avons enfin appris à nous positionner ensemble avant de donner une réponse quand nous étions invités pour les vacances, et à décider ce qui nous convenait vraiment ensemble. Et enfin, Paul est peut-être comme beaucoup de maris qui trouvent que leur femme leur donne tout le temps des conseils ou fait beaucoup de reproches, et c'est très dur à vivre. Et Paul dit, je détestais que Margot se mêle tout le temps de ma vie, je me sentais infantilisée, et elle se sentait rejetée par mes reproches. En fait, c'est mon manque d'estime de moi qui me faisait mal interpréter son amour pour moi. C'est ce que je prenais pour des reproches ou des conseils permanents. C'était sa manière de s'intéresser à moi, de s'inquiéter pour moi. Aujourd'hui, je lui suis reconnaissant de son aide et quand un domaine vraiment ne la regarde pas, je peux lui dire sans me sentir agressée et sans l'agresser.
Bénédicte de Dinchat, nous avons reçu deux questions par SMS. Donc, tout d'abord, la première, une personne qui n'a pas souhaité signer. Bonjour Radio Maria, merci pour votre émission très intéressante et à l'intervenante. À propos de l'estime de soi, est-ce que les blessures intérieures qui remontent à l'enfance ne sont pas un obstacle pour retrouver l'estime de soi?
Merci. Est-ce que vous voulez me dire les deux questions maintenant et je réponds
Alors, je peux poser
ça vous
la deux.
répondra? Oui.
Je peux poser la deuxième question. Donc, c'est Patricia qui écrit: Bonjour Radio Maria. Le 16 octobre, on fêtera notre anniversaire de mariage. J'ai l'impression de vivre avec un étranger. Comment lui dire je t'aime sans avoir peur d'être repoussée?
Merci pour ces deux questions. Alors, les blessures d'enfance, elles sont réactivées. Effectivement, si elles n'ont pas été guéries, et puis d'ailleurs, est-ce qu'elles sont totalement guérissables? Je ne le crois pas, par les événements extérieurs. Vous voyez, un peu comme quelqu'un qui a une peau fragilisée, et quand il va au soleil, et ben, en fait, il sait qu'il faut prendre soin de sa peau et la protéger, parce que tout de suite, sa peau va surréagir, et voilà, et ça peut être douloureux. C'est un peu comme ça quand on a eu une blessure d'enfance. Donc, ce qui peut être fructueux, c'est de l'identifier. Est-ce que c'est une blessure de rejet? Est-ce que c'est une blessure d'abandon? Est-ce qu'on ne m'a pas reconnue comme une personne unique? Et cela permet, lorsque l'on vit douloureusement une situation, de se dire, ben là, en fait, ce n'est pas que l'autre m'en veut, que le système m'est hostile, ou ce n'est pas quelque chose qui est contre moi, mais c'est que moi, là, je réagis très fort parce que c'est une blessure qui est réactivée. Donc, tout simplement de mieux se connaître pour du coup mieux faire face à cette difficulté. Et si je me connais mieux, cela va m'aider à restaurer aussi mon estime de moi et non pas la laisser s'étioler ou s'éroder par ces situations difficiles. Prenons un exemple, hein, ça peut être celui de Martine, qui a une blessure d'enfance de rejet et qui découvre qu'il y a des mails qui ont été envoyés dans son service professionnel sans qu'elle soit en destinataire ou en copie plutôt. Et ben, quand on reçoit un mail et qu'on n'est pas en copie, en général, on peut se dire plutôt, ben ouf, une chose de moins à faire. Mais si on a une blessure de rejet, on peut l'interpréter très négativement. Et là, effectivement, chère auditrice, vous avez raison, hein, ça peut être mauvais pour notre estime de nous. Ça peut nous conforter dans le fait qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est pas aimable, que les autres nous critiquent et tout. Et se souvenir qu'en fait, ce n'est pas le cas, qu'on n'a aucune preuve de ça, qu'on est juste en train d'interpréter un événement de manière négative. Voilà, donc deux choses hein, par rapport à nos blessures d'enfance. Bien les identifier pour comprendre ce qui se joue en nous quand elles sont réactivées, et puis faire la différence entre une interprétation où je vais personnaliser un événement et la réalité de ce qui se passe, qui peut être vécu différemment par d'autres personnes. Alors, je voudrais maintenant m'adresser à cette personne qui va fêter son anniversaire de mariage et qui dit « J'ai l'impression de vivre avec un étranger ». En vous entendant, voilà, je me dis que vous avez peut-être besoin ou la volonté de restaurer votre communication. Comment lui dire je t'aime sans être jeté? Alors, ça nécessiterait peut-être que vous nous en disiez un peu plus, mais peut-être pouvez-vous vous poser la question, quel est le langage de l'amour de mon conjoint? Il y a beaucoup de manières de se dire ou de se montrer qu'on s'aime, et certaines peuvent paraître, même si c'est curieux, hein, intrusive à notre conjoint, et d'autres lui conviennent tout à fait. Est-ce que votre conjoint se sent davantage aimé quand vous lui rendez un service? Dans ce cas-là, c'est le moment de le faire de manière un peu plus exceptionnelle. Ou est-ce que c'est quand vous lui dites en parole? Est-ce que c'est dans des gestes de tendresse? Est-ce que ce sont les cadeaux auxquels il est sensible ou les bons moments que vous pouvez vivre ensemble? Et vous le savez certainement au bout de tant d'années de vie commune, parce que c'est souvent de cette manière-là qu'il exprime qu'il tient à eux, aux personnes de son entourage, où voilà, vous avez pu voir dans ses réactions qu'il est plus ou moins sensible à telle ou telle attitude de votre part. Et moi, je vous encourage vraiment à renforcer quelque chose qui fonctionne déjà entre vous. Et puis, on en parlera plus le mois prochain, mais allez, si vous avez l'impression de vivre avec un étranger, peut-être demander de l'aide, parce que ça doit être terriblement douloureux pour vous de ne pas vraiment savoir qui est votre conjoint, et puis d'avoir peur de lui manifester que vous tenez à lui, parce que vous craignez d'être rejeté ou repoussé. Est-ce que ce ne serait pas l'indication que votre couple a besoin d'aide et que d'aller voir un conseiller conjugal peut être fructueux? Donc nous en reparlerons et moi vraiment, en tout cas, je vous encourage à continuer à vouloir lui montrer que vous l'aimez et bravo de votre fidélité dans cette situation difficile.
Et nous allons terminer avec un appel, donc une personne qui souhaite intervenir. Il s'agit de Noël. Noël, c'est à vous.
Oui, bonjour à vous. Moi, je pense que vous vous adressez aux personnes qui ont une manque d'estime de soi. Et je me demande, est-ce qu'il y a aussi des personnes qui ont une surestime de soi-même, c'est-à-dire, et comment ça peut se manifester, cette surestime de soi-même, et comment trouver aussi le bon équilibre entre un sous-estime. Un manque d'estime de soi et une surestime de soi, si ça existe. Merci.
Merci pour votre question parce qu'elle est vraiment fréquente. Hein. Est-ce qu'on peut avoir trop d'estime de soi? Il peut y avoir une fausse peut-être apparence ou une apparence de trop d'estime de soi, mais qui cacherait peut-être comment dire, une fragilité intérieure. Et puis il y a aussi des gens qui font preuve carrément d'orgueil. Hein. Et je ne sais pas si c'est trop d'estime de soi, parce que pour moi, une estime de soi ajustée, justement, elle consiste aussi à bien connaître nos limites, à savoir qu'on ne sait pas faire certaines choses. En fait, une estime de soi pour les compétences, pour son agir, c'est vraiment connaître ses ressources et connaître ses capacités. Et donc, à la fois avoir confiance qu'on peut réussir dans ses projets, mais aussi accepter nos erreurs et tout. Donc, c'est vraiment différent de l'orgueil ou de trop d'estime de soi. C'est vraiment entretenir de la fierté, mais non pas, voilà, non pas un orgueil ou un sentiment de supériorité. Et puis encore une fois, pour Jean Monbourquette, de toute façon, l'estime de soi n'est pas un but en soi. D'ailleurs, il le dit lui-même un peu comme vous, à trop cultiver son ego, eh ben on deviendrait peut-être égotique ou égoïste ou obsédé de son ego. Pour Jean Monbourquette, avoir vraiment cultivé une bonne estime de soi, ça sert à se redonner aux autres finalement, à écouter notre mission, à se mettre au service. C'est juste un moyen. Voyez, si j'ai une meilleure estime de moi et que je dépends moins du regard des autres, finalement, je vais me dire, ben, le plus important, c'est pas ce qui a marqué sur ma carte de visite et je vais peut-être même oser quitter un travail prestigieux pour faire un travail qui a plus de sens. Si j'ai une bonne estime de moi, et ben, je vais accueillir peut-être une demande en mariage en arrêtant d'avoir peur de m'engager parce que j'ai confiance dans mes capacités. Donc tout cela, c'est vraiment dans une dimension de don ou de co-création de l'univers, de partage, de redonner ce que j'ai reçu, bah parce que je suis consciente de mes richesses intérieures. On pourrait presque le rapprocher de la parabole des talents. Donc je crois que quelqu'un qui a trop d'estime de lui, c'est peut-être qu'il se trompe de but, un peu comme, je sais pas, un avare qui engrangerait un trésor et qui va compter ses pièces d'or. Ça n'a pas tellement de sens et c'est pas une finalité. C'est pour ça, moi, que j'aime beaucoup cette pédagogie de Jean Monbourquette parce que je trouve qu'elle ne se cantonne pas au psychologique, mais elle l'ouvre sur le spirituel. Et on va peut-être terminer avec cette phrase du début, hein. Elle consiste vraiment à pouvoir se dire, je vais aimer mon prochain comme moi-même.
En fait, donc, c'est la fin. La fin, c'est l'action de la fin qui va un petit peu juger si on est dans la bonne direction ou pas, c'est ça.
Est-ce que mon estime de moi, finalement,
Elle me
elle se
pousse à aimer.
concrétise dans une affirmation de moi, dans le respect de l'autre? Et l'affirmation de moi, ben, ça va être aimer davantage, ça
Voilà,
va aussi
d'accord.
être accueillir de l'amour, et accueillir
D'accord.
aussi bien l'amour de Dieu que l'amour de mon conjoint, que l'amitié de mes collègues de travail. C'est dans les deux sens. Elle va m'aider à accueillir et à donner davantage. Mais pas juste, comment dire, faire un piédestal et faire une belle statue de moi que je mettrai au-dessus. C'est en tout cas
D'accord.
pas dans notre approche.
Ok. Merci beaucoup, merci
Je
beaucoup.
vous en prie.
Ça me paraît
Oui.
très clair.
Oui. Pour
Merci.
compléter, hein, on pourrait dire que dans les librairies, l'estime de soi est rangée dans les livres développement personnel. Et un de mes collègues de formation disait, ben, ce dont nous parlons en estime de soi, ce n'est pas du développement personnel, mais ce serait du déploiement personnel. Et c'est là où, pour moi, je trouve que ça prend tout son sens. Voilà, se déployer au service des autres parce que je suis conscient d'avoir cette capacité d'agir.
D'accord. Merci beaucoup.
Je vous en
Merci.
prie.
Au
Merci
revoir.
Noël. Au revoir.
Ok, merci, au revoir.
Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup, Bénédicte de Dinchin, pour tout cet éclairage sur l'estime de soi et on vous retrouve le mois prochain pour un autre thème.
Voilà, et ben très volontiers, le mois prochain, ce sera communiquer en couple comment et dans quel objectif.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir à tous.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Vive mon couple avec Bénédicte de Dinchin qui nous parlait aujourd'hui du thème suivant, comment mon estime de moi m'aide à mieux aimer et me laisser aimer. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.